RFI, bienvenue pour un nouveau journal. Il est 3h à Paris.
Mathis Limano.
En Syrie, le nouveau Premier ministre s'engage au respect de toutes les communautés et confessions et appelle les réfugiés syriens exilés à rentrer au pays. À Damas, nos envoyés spéciaux ont pu observer le retour à la normale. Mais dès qu'on s'écarte du centre-ville, la situation est tout autre. Reportage en début de journal. En Afrique du Sud, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite en amont du sommet du G20 et puis en Ligue des champions de football. Soirée en demi-teinte pour les clubs français. En Syrie, un vent de normalité souffle sur Damas, notamment avec la réouverture des commerces. Mais à l'extérieur de la ville, la situation est tout autre. Nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Boris Vichit se sont rendus à Asrata, un ancien fief rebelle bombardé pendant plusieurs années par le régime et où la population qui est restée est aujourd'hui encore totalement démunie. RFI reportage.
Au milieu des immeubles en ruine d'Asrata, des dizaines de personnes font la queue. Elles achètent du pain dans ce qui fait office de boulangerie, un réduit jouxtant un hangar dévasté. Anan Ahmed Abou Ahmad a 30 ans, un mari et 3 enfants qu'elle a du mal à nourrir.
Grâce à Dieu, il y a du pain ici, mais c'est très cher. Comme le sucre, tout est très cher. Et on n'a pas assez d'argent. On n'a même pas de gaz. Je n'ai pas les moyens d'en acheter. Du coup, on ne peut rien chauffer et on mange de la nourriture en boîte.
La ville d'Asrata, ancien fief rebelle, a subi durant des années les bombardements du régime de Bachar el-Assad. Une partie de la population a fui. Ceux qui sont restés se sont abandonnés encore aujourd'hui, comme l'explique Abou Mohamed Shiha.
On est à la campagne ici, on n'est pas en ville. Et deuxièmement, on a besoin que les sanctions internationales contre la Syrie soient levées. Peut-être que les ONG peuvent venir nous aider ici. Nous souhaitons aussi que les réfugiés reviennent dans leur maison. Mais pour l'instant, on ne trouve pas le moindre litre d'essence. Il n'y a pas d'électricité, rien.
Les habitants d'Asrata espèrent qu'avec l'arrivée des rebelles au pouvoir, la situation s'améliore, même si pour l'instant, aucune aide n'est parvenue jusqu'à eux. Muriel Paradon, Boris Vichit, Asrata, RFI.
Les rebelles au pouvoir, dont le nouveau Premier ministre a tenté d'apaiser les craintes des minorités, mais aussi des pays occidentaux. Les droits de toutes les communautés seront garantis, a affirmé Mohamed al-Bachir. Il a aussi appelé les 6 millions de Syriens exilés à l'étranger à rentrer au pays afin d'aider à sa reconstruction. Mais à l'heure où je vous parle, les combats ne cessent pas. La Turquie continue de bombarder des positions pro-kurdes au nord, tandis qu'au sud, Israël occupe toujours des territoires au-delà de la zone tampon, occupation dénoncée par l'ONU et accompagnée par des centaines de frappes sur des sites militaires syriens. Depuis Berlin, la chef de la diplomatie allemande a exhorté Tel Aviv et Ankara à ne pas mettre en péril la possibilité d'une transition pacifique en Syrie. L'ONU, je vous en parlais à l'instant, dont le secrétaire général doit se rendre au Lesotho. Mais avant ça, il était en Afrique du Sud. Mercredi, Antonio Guterres s'est entretenu avec le président Cyril Ramaphosa et son ministre des Affaires étrangères, Ronald Lamola. Au cœur de ces échanges, la présidence sud-africaine du G20, premier pays du continent à prendre la tête du sommet économique mondial, Valentin Hugues.
À gauche, le drapeau bleu des Nations Unies, à droite, celui de l'Afrique du Sud, Ronald Lamola, ministre des Affaires étrangères.
Nos actions prioritaires pour ce G20, qui seront discutées par les différents groupes de travail, comprennent le renforcement des réponses apportées aux différentes crises, la garantie de la viabilité de la dette pour les pays à faible revenu, la mobilisation du financement pour une transition énergétique juste.
Parmi ses priorités, pour le secrétaire général de l'ONU, c'est bien le réchauffement climatique qui occupe une place importante, un phénomène qui risque de rendre encore plus complexes les efforts de lutte contre la pauvreté sur le continent.
D'ici l'année prochaine, les pays devront renouveler leur plan d'action économique pour le climat. En tant que principal émetteur, le G20 doit montrer la voie. Les pays développés doivent également soutenir les économies émergentes en leur apportant leurs capacités technologiques et leur savoir-faire. Il faut créer des modèles innovants de coopération internationale.
Selon le dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale, l'Afrique subsaharienne devra consacrer près de 50 milliards d'euros chaque année pour s'adapter au changement climatique. Un impact disproportionné selon les Nations Unies. Plus tôt dans la journée, Antonio Guterres était invité aux premières réunions des Sherpas, les représentants financiers des pays du G20.
De nombreux pays vulnérables sont contraints de répondre à une crise qu'ils n'ont pas créée.
Une visite qui s'est conclue par une rencontre avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Et en marge du sommet du G20, rencontre prévue entre des responsables américains et chinois pour renforcer les liens économiques entre Washington et Pékin avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président élu qui a d'ailleurs invité Xi Jinping à sa cérémonie d'investiture prévue le 20 janvier devant le Capitole. Donald Trump revient au pouvoir au terme d'une élection remportée haut la main début novembre, va être désigné personnalité de l'année par le Time. Le célèbre magazine américain décerne ce titre depuis près d'un siècle. Pour célébrer cette distinction, Donald Trump sonnera ce jeudi la cloche à l'ouverture de la Bourse de New York. Des informations rapportées par nos confrères de Politico. L'administration Biden, toujours aux manettes, qui s'empresse d'aider l'Ukraine avant la prise de pouvoir de Donald Trump. Nouvelle aide de 20 milliards de dollars sous forme de prêt pour Kiev, un prêt qui sera remboursé grâce aux intérêts des avoirs russes gelés. C'est du vol, estime la diplomate russe, qui promet des représailles. En Corée du Sud, Yoon Suk-yeol accuse l'opposition de provoquer une crise nationale une semaine après sa tentative d'imposer la loi martiale en réponse au blocage du processus parlementaire. Et ce nouveau rebondissement, ce mercredi, la police affirme avoir été empêchée de perquisitionner les bureaux du président. Les policiers se sont heurtés au refus des services de sécurité. Yoon Suk-yeol est mis en cause après donc cette tentative d'imposer la loi martiale. Il a depuis échappé à une motion de destitution, mais un deuxième vote initié par l'opposition doit avoir lieu samedi. Et toujours dans la région, Taïwan dit avoir encore repéré des navires de guerre chinois aux alentours. Taipei en dénombre 16 dans ce qui se présente comme un important déploiement militaire chinois depuis plusieurs jours et la tournée dans le Pacifique qui n'a pas plu à Pékin du président taïwanais. Toute autre actualité à présent. Plus de 10% des sols sur Terre sont affectés par un excès de sel. C'est la FAO qui alerte, l'agence de l'ONU dédiée à l'agriculture et l'alimentation, alors que se tient en ce moment la COP16 sur l'aridification et la dégradation des sols. Simon Rosé.
Ce n'est pas la conséquence du réchauffement climatique la plus connue, mais ses effets sont pourtant très dommageables. La salinisation des sols touche très exactement 10,7% des terres de la planète, selon la FAO. 1,4 milliard d'hectares où les activités agricoles sont compromises. Le riz, la pomme de terre, les haricots poussent en effet très mal dans une terre trop salée. Le phénomène s'amplifie, alerte l'agence onusienne. D'ici la fin du siècle, ce seront entre un quart et un tiers des sols de la planète qui seront concernés. En zone littorale, tout d'abord, la montée des eaux favorise l'infiltration de l'eau de mer. Ailleurs, l'aridité croissante fait mécaniquement remonter la concentration en sel de terres qui en contiennent déjà naturellement. Principaux concernés, la Chine, les États-Unis, l'Afghanistan, auxquels s'ajouteront à l'avenir l'Afrique du Sud, l'Amérique latine et l'Australie. Une cinquantaine de pays au total, peu armés, regrette la FAO. Les trois quarts d'entre eux n'ont pas de programme de gestion de la salinisation. Des solutions existent pourtant. On peut réduire le phénomène avec le drainage et le paillage des sols, la rotation des cultures. On peut également s'y adapter en plantant des espèces plus résistantes comme le blé.
Simon Rosé, nouvelle opération pour le président brésilien à peine sorti du bloc pour une hémorragie à l'intérieur du crâne. Lula va subir un complément d'opération jeudi. Le chef de l'État demeure en soins intensifs mais il a passé une bonne journée et a reçu la visite de sa famille, a voulu rassurer l'hôpital de Sao Paulo. Et puis, pour refermer votre journal, suite et fin de la 6e journée de Ligue des Champions de football. Ce mercredi, on fait le point des résultats des clubs français avec Florence Valmé.
Les Monégasques sont tombés face à des Gunners très en forme. 3e en Première Ligue. 3e également provisoirement de cette Ligue des Champions. C'est une 2e défaite d'affilée dans cette compétition pour les Monégasques. Ils sont 16e pour le moment, donc barragistes. Pas une bonne nouvelle hein, s'ils veulent atteindre le top 8. D'autant que les hommes d'Adi Hütter affronteront lors des deux derniers matchs Aston Villa et l'Inter Milan. Lille affrontait Sturm Graz et s'est fait peur face au modeste club autrichien. On ne s'attendait pas à avoir un match d'une telle intensité et d'une telle adversité. Les Dogs s'imposent finalement 3-2. La délivrance arrivera en toute fin de match à la 81e minute grâce à Haraldsson. Avec 13 points et une 8e place provisoire, Lille, c'est sûr, assure sa qualification pour les barrages et peut donc même envisager une qualification directe pour les 8e de finale. Le PSG, lui, redescend d'une petite place, 25e, et n'est pas qualifié virtuellement. Il aura fort à faire également lors des deux derniers matchs face à Manchester City et Stuttgart. Brest, quant à lui, est qualifié virtuellement pour les huitièmes de finale de cette compétition. Brest et Lille qui sont respectivement 7e et 8e.
Merci Florence Valmé du service sport de RFI. Il est 3h10 à Paris, une heure de moins en temps universel. L'info revient dans 50 minutes.